nous reprenons sans trop tarder, nous sommes déjà un peu en retard. Vous avez compris, lorsque vous avez vu cette courbe de l'apparition de Sade dans la langue française autour de 1965-1966, pourquoi il fallait un exposé sur Sade 1966. Je crois que Sade est partout présent, vous l'avez vu dans le film masculin-féminin, hein, évoqué entre Jean-Pierre Léo et la jeune fille, à propos de la campagne électorale présidentielle de décembre 1965, hein, puisqu'il y a un collage entre Sade et Malraux, et le texte de Blanchot, publié en octobre 1965, est un texte électoral. Je crois que je ne sais pas si on y reviendra, mais le débat d'un observateur qui suit, que j'évoquais, tente à l'attester. Lorsque j'avais commencé à préparer ce cours, je tombais partout sur Sade. Je tombais sur Sade à propos de la publication des œuvres complètes. Je tombais sur ça à propos des premiers ouvrages de vulgarisation, un livre de Jean-Jacques Brochier qui s'appelle Sade, publié curieusement dans une collection qui s'appelle Classique du XXe siècle. Mais ce qui montre aussi comment on reçoit Sade en 1966. Le débat du Nouvel Observateur que j'évoquais, Sade et le progressisme, doit-on brûler le divin marquis ? Je ne sais pas si tu en parleras. Ouais. Enfin, qui se demande si Sade est vraiment progressiste. Ou encore, on pourrait évoquer le fait que dans la polémique, mais j'y reviendrai peut-être, entre Sartre et Foucault, à la suite des mots et les choses, Sartre utilise Sade comme contre-exemple de l'archéologie foucauldienne. Donc, Sade est à peu près partout, tout le monde le cite. Peut-être qu'il faudrait ajouter encore la forte présence de Sade dans l'actualité avec un fait divers anglais. C'est un assassinat, des assassinats qui ont eu lieu à Manchester entre 1963 et 1965. Dont le meurtrier a été arrêté en octobre 1965. C'était un assassin qui lisait Sade. Hein, il lisait Justine et il justifiait à travers ses crimes, à travers Sade et Nietzsche. Donc, il y a toute une polémique sur l'influence de Sade et une émission à la télévision française sur Manchester, les héritiers de Sade. Donc il y a du Sade présent vraiment partout dans cette année. Donc Philippe Roger, qui est l'un des spécialistes de Sade, qui a publié un livre sur Sade il y a longtemps déjà, qui s'appelait « La philosophie dans le pressoir », qui a travaillé également sur Roland Barthes et qui a publié il y a assez récemment un livre sur l'anti-américanisme. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'anti-américanisme très fortement présent dans ces deux films, chez Bresson et chez Godard tout à l'heure. Il va nous parler de Sade en 1966, sexe et politique, je crois.
Je crois. Il y aura plus de politique que de sexe, je le dis, mais ne partez pas. Donc, comme Antoine Compagnon, je remercie de m'avoir invité, vient de le dire lui-même, et il avait dit lors de son premier cours, vous vous en souvenez, qu'il invitait ou bien des témoins ou bien des spécialistes. Je ne crois pas être témoin, parce que je n'avais pas encore rencontré ça dans 66. Je n'avais même pas encore rencontré Antoine Compagnon, c'est-à-dire. Et je le précise parce que nous nous sommes rencontrés la même année. Je veux dire, j'ai rencontré et ça des Antoine Compagnon sans qu'il y ait de relation de cause à effet 3 ans plus tard. Et je tenais à le dire devant lui. Alors, j'ai d'abord pensé qu'Antoine Compagnon m'avait entraîné dans une étrange galère. En tant que spécialiste de Sade, justement, j'avais cette idée préconçue, bien sûr, que le grand moment, en tout cas de la redécouverte exégétique de Sade, c'était l'après-guerre. Et en effet, j'ai fait un tout petit tableau pour expédier la chose plus vite. Les grands textes critiques, il y en aura d'autres bien sûr, hein, mais la vague des grands textes critiques, eh bien, elle intervient plutôt à ce moment-là, à tout seigneur, tout honneur, Georges Bataille, dans la revue Critique, donne Le secret de Sade en 1947, ce sera repris dans La littérature et le mal 10 ans plus tard, Pierre Klossowski, Sade mon prochain, Blanchot, bien sûr, livre important aux éditions de Minuit en 1949, Maurice Hine est mort en 1940, mais il a été véritablement un des artisans de la redécouverte du texte, et son Marquis de Sade est édité par Gilbert Lely, le grand biographe qui succède en quelque sorte à Maurice Hine dans les travaux sadiens, en 1950. Et puis bien sûr l'article de Simone de Beauvoir, « Faut-il brûler Sade ?», dont le titre du Nouvel Observateur que tu citais à l'instant, « Doit-on brûler ?», est évidemment un écho à une décennie de distance. Et puis j'accélère, Jean Paulhan, encore un texte important, « La vie, bien sûr, du Marquis de Sade » de Gilbert Lely, paru en 52 et 57, deux gros volumes qui seront repris en tête des heureux complètes plus tard. Georges Bataille, de nouveau, cette fois pour le volume « La littérature et le mal », qui donc, en 57, reprend les deux articles de 47 parus dans Critique, mais intègre de nouvelles études. Et en même temps, Georges Bataille publie « L'érotisme » aux éditions de Minuit, le livre précédent est chez Gallimard, qui comporte deux chapitres sur Sade. Donc, il me semblait que la redécouverte, en tout cas du côté de la glosse du commentaire, était plutôt le fait des années 50. Et puis, j'ai dû me rendre à l'évidence, Antoine avait raison, et je veux dire que ce que j'ai pu découvrir par des lectures beaucoup moins organisées et avec un moteur de recherche qui n'était que le mien, correspond au pic de fréquence du terme, du mot, du nom de Sade, cette espèce de vertigineuse ascension de la présence du nom de Sade dans les publications autour de 1966. J'ai trouvé, je vous livre simplement deux citation que j'ai trouvée assez amusante et qui confirme que les contemporains en sont conscients. La première, je l'ai prise dans l'Express, numéro de la fin de 1966, dans un article d'Alain Jouffroy. J'aurai d'ailleurs l'occasion de citer plusieurs fois Alain Jouffroy. Sade, ce nom sert aujourd'hui d'affiche de théâtre, de réclame pour les films, de miroir aux alouettes pour le commerce des images. Il n'est plus de jour où l'on ne le voit cité dans les journaux, les revues, plus de jour où il ne soit impliqué dans les conversations quotidiennes sur l'amour, l'amitié, les rapports entre les hommes. Et Jouffroy ajoute, et j'en reviendrai sur ce point qui est évidemment important, mais ce nom n'est qu'un paravent. Paravent. Je souligne pour évidemment le souvenir de Genet qui est tout proche. L'œuvre qu'il dissimule demeure inconnue. Il y a beaucoup de choses dans ce petit extrait d'Alain Jouffroy et beaucoup de choses qui nous alertent sur la situation très particulière qui est celle de 65-66. Sade, qu'on ne peut pas lire, ou en tout cas il est très difficile de lire les livres qui sont les livres avec mots, pour reprendre les catégories de Sade lui-même, qui distinguait dans ses notes personnelles entre ces livres avec mots, c'est-à-dire les livres obscènes, et les livres sans mots, c'est-à-dire les contes, les historiettes honnêtes. Et j'ai trouvé une curieuse confirmation de cette intuition de Jouffroy. Dans un autre article, cette fois Le Nouvel Observateur, je citerai beaucoup ces deux hebdomadaires, dans la mesure où j'ai l'impression qu'une partie de ce qui se joue autour de Sade en 66 relève aussi de la concurrence entre ces deux hebdomadaires. C'est un article qui a été un article spectaculaire. Je ne sais pas si, Antoine, tu l'as déjà évoqué. Je pense que oui, c'est l'article de Patrick Loriot, et peut-être ai-je manqué cet épisode. dans le Nouvel Observateur avec cette couverture, où le Nouvel Observateur, pendant ces mois d'été où la vie des magazines est bien difficile, le Nouvel Observateur réussit un très joli coup à l'été 66 avec l'enquête de Patrick Loriot, qui va tout à fait dans le sens de ce qu'Antoine Compagnon nous disait à propos des deux films qu'il a commentés. L'enquête s'intitule « 16 millions de voyous en France, point d'interrogation ». C'est une allusion transparente à l'époque à une émission originale, très suivie de la télévision, d'Alain de Sédouis et d'André Harris, qui s'intitulait, certains s'en souviennent peut-être, « 16 millions de jeunes ». Le Nouvel Observateur a transformé les 16 millions de jeunes en 16 millions de voyous, point d'interrogation, numéro de juillet 66. Il s'agit d'ailleurs moins de voyous dans cette enquête très sensationnaliste et assez bien écrite du jeune Patrick Loriot, plutôt de misfits au sens de ce beau film « Les désaxés » en français, mais ça ne rend pas très bien compte du côté inadapté du mot « misfits » où on avait vu Marilyn Monroe. Et alors, je ne vais pas vous parler de cette enquête, ce n'est pas mon sujet, de Patrick Loriot, qui va permettre de rebondir de semaine en semaine et de vendre davantage d'exemplaires tout le long de l'été. Mais ce qui m'a amusé, c'est que parmi les cas cités, sous des pseudonymes bien sûr, Patrick Loriot évoque celui de Monique, 26 ans. Monique est secrète, elle est rebelle, sa famille s'inquiète, elle déjoue toute surveillance. Et puis, un jour, tout de même, l'espionnage, puisqu'il faut bien appeler les choses par leur nom, porte ses fruits, je cite, « on l'entend téléphoner, puis on est atterré. Sa conversation dépasse de beaucoup Céline, le Marquis de Sade et les journaux pornographiques mélangés. » Je vous laisse à penser ce que le mélange peut donner. Et Patrick Loriot ajoute, « on ne lit pourtant chez ses parents que des ouvrages et des journaux mièvres, bien-pensants et gaullistes. » Je sais pas. C'est le coup de pied de l'âne, mais sans allusion à Balthazar cette fois. Alors, je crois qu'on est dans une situation très particulière avec cette montée en flèche du nom de Sade à un moment, il faut y insister, où le texte n'est toujours pas disponible. Et essayant de regrouper la foule, la masse d'informations que j'ai finalement découvertes alors que je croyais m'avancer sur un sol un peu stérile, je vais essayer de les regrouper sous trois rubriques, trois têtes d'affiche, si vous voulez. La première, c'est de la remettre dans un contexte, cette ascension du nom de Sade. Et ce contexte, c'est celui de 66 années de toutes les censures. Le deuxième point que j'évoquerai, c'est évidemment l'irruption de Sade sur une nouvelle scène inattendue, c'est la scène théâtrale. Et bien sûr, je ferai la part du lion au Marassade, qui est un des événements de théâtre des années, non pas 66 seulement, mais il faut bien dire 63-67, puisque l'histoire dure un peu plus longtemps. Et puis j'essaierai ensuite de tirer quelques fils et de montrer quels auront été, au cours de cette année 66, les usages politiques de Sade. Alors, la censure, j'irai très vite ici, parce que Antoine en a déjà parlé, et il en parlera sans doute le 7 mars à propos de la religieuse. La censure est loin d'être une chose nouvelle en France. Il y a eu censure à cause des guerres coloniales, il y a eu censure d'opinion, il y a eu censure sous la IVe République, comme le rappelle d'ailleurs avec beaucoup d'honnêteté quelqu'un comme Jean Villard, qui dit « il ne faut pas parler toujours de censure gaulliste ». La pièce de Roger Vaillant, par exemple, une pièce très anti-américaine, « Le colonel Foster plaidera coupable », avait été interdite purement et simplement. Il faut quand même souligner le fait, cela a été fait déjà, donc je le rappelle rapidement, que 66 est une suite d'affaires de censure. Il y a l'affaire de la religieuse, bien entendu. Antoine Compagnon l'a déjà évoqué, je crois, à sa première séance. Elle commence fin 65, mais l'interdiction totale est prononcée, du film, est prononcée le 31 mars 66. Je vous rappelle qu'elle est prononcée contre l'avis de la commission consultative. Donc le scandale public, la campagne, la mobilisation de la presse de gauche en particulier, commence en avril 66. Et voilà, je n'ai pas résisté quand même au plaisir de vous montrer cette très très belle photo d'Anna Karina. L'Express bat le Nouvel Observateur d'une encolure et fait sa couverture dès que la nouvelle devient publique, ou à peu près, quelques jours plus tard, sur Anna Karina dans La religieuse de Rivette. On prête au cardinal Felletin, qui était venu à l'Élysée pour une toute autre affaire, bien entendu, on lui prête au moment de prendre congé du général de Gaulle ce mot et cette affaire de La religieuse, quelle sottise ! À quoi le général, toujours sobre, aurait répondu « Oui, quelle sottise !» Et le dialogue s'était terminé là. Les paravents font scandale à partir d'avril-mai. Il y a un enchaînement incessant. Mais, il faut le souligner, c'est à l'automne, lors de la reprise de la pièce, que l'hostilité contre les paravents va prendre d'autres formes. Des formes à la fois plus violentes, puisque une attaque musclée de parachutistes ou d'anciens parachutistes interrompt la 12e représentation et que c'est le prétexte pour le préfet de police de déclarer que la sécurité ne peut pas être assurée et donc il y a censure de facto des représentations, interruption la reprise qui devait comporter 20 représentations au cours de l'automne. Et puis, il y a la séance, que je n'évoquerai pas parce que ça nous entraînerait trop loin, du 27 octobre 1966, au cours de laquelle une question de M. Christian Bonnet, député du Morbihan, l'Ouest est très représenté dans les offensives contre ces films et ces pièces, faisant suite au vote en commission des finances de la suppression de la subvention du Théâtre de France, manière de punir Jean-Louis Barrault, oblige André Malraux à prendre la défense de l'Odéon et de Barrault. Et le scandale, j'y reviendrai, de Marassade intervient entre les deux, si j'ose dire. J'essaierai de montrer d'ailleurs que ce scandale n'a pas eu du tout la même portée, la même ampleur, et que c'est en quelque sorte parce que la scène était chauffée par la censure du film La religieuse, qui ne sera levée qu'après les élections législatives de 67, je le rappelle, et la question orale au Parlement de Christian Bonnet sur les paravents, que Bertrand Flournoy, ancien explorateur et député de la Seine-et-Marne, interpelle non pas le ministre de la Culture, mais le ministre de la Jeunesse et des Sports, le 15 septembre, sur la question de Marassade, dont l'adaptation française vient de commencer à Paris. Pour clore ces petits rappels sur la censure, ou presque, je citerai l'Express en octobre 1966, qui rapproche tous ces épisodes sans les dramatiser, et au contraire en essayant de les minimiser, de les ramener à une sorte de cuisine électorale. Il faut rappeler que les engagements de M. Perfit étaient liés à la campagne présidentielle. Les offensives de 1966 sont liées aux législatives qui déjà se profilent à l'horizon 1967. Je cite l'Express. Ainsi, dit l'Express, à l'occasion du « scandale » entre guillemets de la religieuse, de celui des paravents, de celui de Marassade, a-t-on vu surgir de l'obscurité les noms et les visages de messieurs Armand Massard, Jacques Maire, Bertrand Flournoy, explorateurs connus mais débutés modestes, augmentés de monsieur Édouard Frédéric Dupont, qui est décrit, qu'on surnommait depuis longtemps le débuté des concierges, et qui, parce qu'il prenait leur défense comme avocat, d'ailleurs il faut le dire à son honneur, M. Édouard Frédéric Dupont, que l'Express décrit comme véritable professionnel de l'indignation, le Bob Dylan du conseil municipal. Ce qui n'est pas très gentil pour Bob Dylan, à mon avis. Bon, donc un très large front se constitue en 1966, contre la censure, qui n'est plus la censure d'opinion liée à une guerre et qui est donc d'autant plus intolérable, et qui n'est pas tout à fait celle que l'on critique quand il s'agit de l'ORTF, et ce qu'Antoine disait tout à l'heure sur le contrôle des naissances est confirmé. Il y a une campagne dans le Nouvel Observateur parce qu'on a déprogrammé au dernier moment une séquence sur le contrôle des naissances. Tout cela fait un ensemble. Mais c'est contre la censure des œuvres d'art, œuvres théâtrales, bien sûr, cinématographiques et livre que la campagne va se dérouler. On voit très bien dans la presse de gauche, en tout cas, bien sûr, la presse de droite n'a pas souvent la même attitude, on voit très bien que toutes ces questions sont liées, que le Nouvel Observateur multiplie les brèves sur des phénomènes de censure. J'en cite simplement un au passage. Dans le numéro 87, nous sommes en juillet, nous sommes absolument à la même période, le Nouvel Observateur alerte ses lecteurs d'été sur le fait qu'Eric Losfeld, une sorte d'alter ego, enfin, disciple si vous préférez, en matière d'édition du courageux Jean-Jacques Pauvert, Eric Losfeld est condamné pour avoir publié en 63 l'édition française d'une nouvelle érotique, d'ailleurs inachevée, de Aubrey Beardsley. Beardsley est un ami de Wilde, il est mort en 1898, hein, et on condamne encore Losfeld en 66 pour avoir publié cette nouvelle intitulée « Sous la colline ». La nouvelle avait d'ailleurs la publication en anglais qui s'était faite à Paris, c'était Girodias qui l'avait publiée, avait d'ailleurs fait déjà l'objet d'une condamnation. Donc il y a un climat général dont je dirais que paradoxalement, Sade va bénéficier. C'est-à-dire que l'ensemble de ces offensives contre la censure sur le thème « cela suffit » va bénéficier à cette poussée de Sade, qui est une poussée d'abord dans les articles de protestation, bien avant donc la véritable libéralisation ou autorisation tout simplement de l'édition. Il faut dire un mot pour rappeler la situation de l'édition de Sade. Elle est très simple, c'est que Sade, après les procès que Jean-Jacques Pauvert a dû affronter en 1956 avec un appel en 58, l'affaire Sade, mais je renvoie ici au livre de Jean-Jacques Pauvert lui-même, un livre de 1994 qui fait le point sur toute cette affaire et sur son travail d'éditeur, sans cesse poursuivi dans cette période. Sade, en tout cas toutes les œuvres avec mots, Sade est toujours interdit. Il est interdit sous la forme de l'interdiction à la jeunesse, bien entendu, mais ce qui veut dire aussi interdiction à l'affichage. Or, l'interdiction à l'affichage rend de fait la présence des livres quasi impossible chez les libraires. Autrement dit, cette mesure, quoique insidieuse dans sa formulation, sans parler, sans préjudice des condamnations éventuelles des éditeurs qui se risquent à enfreindre, aboutit au fait que la diffusion des œuvres du type 120 journées de Sodome ne peut, ou des œuvres complètes, ne peut se faire que sur le mode de la souscription, comme au XIXe siècle, et comme Maurice Hine déjà l'avait fait, publiant dans les années 30 les 120 journées par souscription. Il y a une présence de Sade dans l'édition, mais évidemment, elle est limitée aux textes sans mots. Par exemple, le livre de poche, dont Antoine Compagnon a montré toute l'importance dans ces années-là, le livre de poche publie, 10-18, l'histoire de Saint-Ville et de Léonore, en 1962 déjà, présentant en quatrième de couverture ce livre, ce roman, comme un roman philosophique et l'ouvrage le plus riche de Sade. Bon, peut-être. En fait, ce n'est pas un ouvrage de Sade, c'est un morceau d'un ouvrage de Sade, puisque l'histoire de Saint-Ville et de Léonore, c'est l'histoire centrale du roman philosophique intitulé Aline et Valcourt, dont le véritable titre est Aline et Valcourt ou le roman philosophique. Vous me direz, c'est mieux que rien. Et puis, il y a ensuite, et j'avais prévu moi aussi, il y a un point commun entre nos deux présentations, puisque vous voyez reparaître ce texte important, c'est le français, encore un effort, si vous voulez être républicain, précédé de l'inconvenance majeure de Maurice Blanchot. Ce qui est important, bien sûr, ici, c'est que ce texte paraisse dans la collection Liberté, la petite collection de Pauvert, qui met ce texte entre les mains, en particulier des étudiants. Mais attention, il ne s'agit pas de la philosophie dans le boudoir, mais seulement du pamphlet inséré dans la philosophie dans le boudoir. Et je terminerai là-dessus cette rapide évocation de la situation éditoriale, et puis il y a les œuvres complètes. Les œuvres complètes, c'est évidemment le grand phénomène qui n'a pas encore eu le temps de porter ses fruits en 66. C'est le grand phénomène parce que Pauvert, l'infatigable Jean-Jacques Pauvert, le tenace Jean-Jacques Pauvert, après les différentes condamnations un peu atténuées dans l'appel de 58, Jean-Jacques Pauvert a décidé de relancer une édition avec un tirage limité à 2000 exemplaires au Cercle du Livre Précieux. C'est la première édition des œuvres complètes Pauvert en 15 tomes, 62-64, 2000 exemplaires, souscription. Mais, et là, nous sommes en 66, et c'est vraiment ici qu'il y a vraiment la ligne de partage des eaux, c'est en 66 que Pauvert commence celle qu'on appelle deuxième édition, 16 tomes en 8 volumes, 1966-1967, et qu'il commence aussi une œuvre de plus longue haleine, l'édition en 35 petits volumes qui inclura le théâtre. Mais il faut faire attention que ces publications restent soumises à cette loi de la rareté qui était la seule manière d'échapper aux poursuites pénales. Et c'est un vieux dispositif depuis le XIXe siècle que l'édition connaît bien. Jouffroy, que j'ai déjà cité, Alain Jouffroy, commente de manière intéressante les chiffres limités de ces tirages. Il rappelle que le premier tirage dont je viens de parler, le tirage 62-64, avait été de 2000 exemplaires. Il annonce que, au moins officiellement, le tirage de l'édition 66-67, uniquement par souscription, j'y insiste, sera de 4500 exemplaires. Et il fait cette comparaison qui m'a paru pouvoir être relevée pour montrer à quel point, contre la censure, on n'hésite pas à faire flèche de tout bois. Je cite Jouffroy. Il n'y aura donc, au fond, que 6500 personnes qui pourront dire sans mentir « J'ai lu tout Sade ». Et à cette frilosité française, en quelque sorte, Jouffroy oppose, sans vergogne, la large diffusion, selon lui, de Sade dans les pays socialistes. En Tchécoslovaquie, écrit Jouffroy, je cite, « Contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser de la liberté d'expression dans les pays socialistes, un hommage au marquis de Sade, avec la traduction de dialogue d'un prêtre et d'un moribond, vient de paraître dans la revue littéraire qui a 25 000 abonnés, la Svetova Literatura. » Bon, inutile de dire que dialogue entre un prêtre et un moribond fait partie, c'est un petit texte anticlérical, antireligieux de Sade, qui fait partie de ces textes parfaitement admissibles et même diffusés très largement en Russie comme dans les pays voisins. Je pense à des textes comme ceux de Parny que je crois seuls les Russes ont eu en œuvre complète, alors que pour nous ce poète érotique et antireligieux est bien oublié. Alors voilà la situation, et je crois que je peux passer tout de suite et rapidement au deuxième point que je voulais évoquer, qui sera un peu plus long, parce que ça me paraît quand même ce qui domine la situation de Sade, comme dirait ou ne dirait pas Sartre, en 66. C'est le fait que cette poussée sadienne, comme une sorte de torrent irrésistible dont on a vu les effets en termes de fréquence de mention du nom, va se diriger vers d'autres espaces que les espaces de l'édition, puisque ces espaces restent extrêmement verrouillés par la censure. Et ces espaces, ce sont les espaces scéniques, ce sont les espaces théâtraux et ensuite cinématographiques. Mais, vous le savez, le principal film, le grand témoignage artistique que nous avons de cette période, le film de Peter Brook, bien sûr, est issu d'une expérience scénique. Dans cette ambiance déjà surchauffée, l'exutoire va être la scène. Sade ne peut pas être lu, il sera donné en spectacle. Il y a là un paradoxe, bien sûr, mais un paradoxe qui sera relevé d'ailleurs ensuite par tel quel dans le fameux numéro de 67, dont l'essentiel est déjà presque rassemblé dans les œuvres complètes de Pauvert. Ce paradoxe, c'est qu'il est peut-être plus facile de montrer des adaptations de Sade que de faire lire ou entendre la lettre de Sade. Quoi qu'il en soit, et même si la pièce de Peter Weiss est évidemment l'œuvre la plus intéressante, à mes yeux du moins, je voudrais souligner aussi qu'elle est loin d'être la seule, que le Marasad de Peter Weiss n'est pas le seul événement théâtral ou même musical sadien de la période. Et tout cela avant la grande explosion des années 70 qui me ferait sortir de mon sujet. Il y aura dans les années 70 beaucoup d'adaptations, certaines excellentes, je pense à celle de Carmelo Bene de 1974, S.A.D.E., je traduis le titre, ou Libertinage et décadence de la fanfare de la gendarmerie salentine, variété en deux aberrations. Très beau texte de Carmelo Bene, très beau spectacle surtout. Donc, puisque nous sommes italiens, je relèverai que c'est en Italie, ou plutôt en Sicile, que commence une sorte de saison sadienne, au Festival de Palerme, festival qui est un festival de musique. À ce festival de musique est joué, est créé, pendant l'été 65, La Passion selon Sade de Silvano Bussotti. Silvano Bussotti n'est pas n'importe qui, c'est un des fondateurs de ce qu'on appelle le théâtre musical avec Maurizio Kagel. Et cette Passion selon Sade est reprise un peu plus tard dans une version scénique concentrée, je cite, à l'Odéon, pour une première en France qui a lieu en décembre 66 sous les auspices du domaine musical. Le Nouvel Observateur est en première ligne, là encore. Maurice Fleuret a suivi La Passion selon Sade à Palerme au cours de la cinquième semaine de Musique Nouvelle de Palerme. Il est un peu ironique. Il trouve qu'il y a eu beaucoup de choses très mauvaises dans cette semaine de Palerme. Et il dit, mais c'est sarcastique, « Heureusement, Bussotti vint. Il a porté Sade dans ses bagages. Le programme parlait de Justine. » D'une musique d'accompagnement pour la philosophie dans le boudoir, des 120 journées de Sodome et d'une table des écarts du vice, qui n'est pas une œuvre sadienne à ma connaissance. Bref, conclut Maurice Fleuret, le théâtre était plein. Effet magique du nom de Sade. Hélas, ajoute Fleuret, quand les imaginations siciliennes sont échauffées, je le cite, il est dangereux de ne pas les satisfaire, et Bussotti désespère. Non pas Billancourt, mais Palerme et Maurice Fleuret, par, je cite, « son parti pris de ne rien donner au spectateur, lequel spectateur le prend mal, je cite, « déçu, intrigué, irrité, furieux, le public commença d'apostropher les protagonistes, bouffons, idiots, puis, au fou, fasciste, et enfin, mafia bon. ». Bref, un final de toute beauté pour le festival de Palerme. Le spectacle arrivant à Paris, Maurice Fleuret, bon prince, réitérera des compliments, cette fois, pour inciter les lecteurs du Nouvel Observateur à aller assister à la Passion selon Sade. Sade, Bussotti dit d'ailleurs une chose intéressante au moment où il est interrogé par Maurice Fleuret pour la première en France. Il dit, je m'empresse d'ajouter que il ne s'agit en rien d'annexer le scandale, mais seulement de transposer les structures de formes très rigoureuses et très nouvelles que j'ai trouvées chez Sade, chez lui Sade. Je le considère en effet, continue Bussotti, comme le plus grand initiateur au théâtre total et comme l'auteur, entre autres, de la première œuvre sérielle avec les 120 journées de Sodome. Sade sériel est une idée neuve en Europe, à coup sûr. Et on voit se profiler déjà, avant ce numéro de Tel quel de 67, un Sade plus formel et même formaliste. Ce qui n'empêche pas la sympathie et l'empathie, et Bussotti ajoute qu'il a voulu en même temps faire partager, je cite, « une certaine manière de ressentir, de penser, d'être selon Sade ». Et il ajoute, sans doute pour rassurer le public français, qu'il a donné sa Passion selon Sade à Milan, chez les frères franciscains de l'Angelicum, mais seulement dans la version oratorio. Donc, dans cet entretien, Bussotti se défendait d'annexer un scandale. Un autre spectacle, où je serai beaucoup plus bref parce que le temps file, n'a pas ce genre de scrupules. Il faut le mentionner parce qu'il fait partie aussi du climat de 66. C'est un happening. Un happening au titre très prometteur, 120 journées dédiées au divin Marquis de Sade. Ce happening a été conçu par le maître du genre en France, qui s'appelle Jean-Jacques Lebel, dans le cadre, si on peut parler de cadre en matière de happening, du 3e festival de la libre expression, dont le même Jean-Jacques Lebel est l'organisateur. Ce genre est alors à la mode, le livre de Jean-Jacques Lebel qui théorise le happening, sous le titre « Le happening » paru chez De Noël en 1966, fait l'objet d'un compte-rendu dans le même numéro de l'Express qui va parler de ce fameux happening. Ce happening est évidemment provocateur, comme tout happening qui se respecte, et la première provocation est de le donner dans l'immeuble même d'André Breton, 42 rue Fontaine. Le choix n'est pas innocent, car André Breton avait excommunié le happening au motif de la promiscuité sexuelle. S'il s'agissait d'enterrer Breton, d'ailleurs ce happening ne venait pas avec un très bon goût, puisque le pauvre Breton est mort, effectivement, non pas du happening, mais 3 mois plus tard, à cette même adresse du 42 rue Fontaine. Ces 120 journées dédiées au divin marquis de Sade ne font évidemment pas l'unanimité. C'est d'ailleurs pas le but d'un happening. Et pour un scandale, c'en est un de plus, dirais-je, dans l'année 66. Le Monde se déchaîne, je cite, contre cette chienlit d'atelier, chienlit, un mot qui resservira, cette chienlit d'atelier dont la fausse provocation puérile évoque l'âge mental du bambin qui fait gicler sa bouillie avec le dos de la cuillère. Dans l'Express, c'est Otto Hahn, chroniqueur d'art contemporain généralement, qui rend compte de la soirée. Ça c'est le tel quel que je saute, 67, et puis voilà une partie de la double page, presque double page, consacrée par l'Express. Un haut-parleur diffusait les pages les plus osées de Sade, pendant que des images hétéroclites défilent sur l'écran. Sur scène, une fille nue, les seins arrosés de crème et proposée comme un gâteau que viennent lécher quelques volontaires. Viol symbolique d'une femme qui porte le masque de De Gaulle, etc. etc. Une performeuse retient l'attention toute particulière d'Otto Hahn, le journaliste. Cynthia, une religieuse dévêtue, au visage d'ange et au sein rebondi, dont il s'avère, je cite sans équivoque, pour les spectateurs bien placés, qu'elle n'est pas du sexe que l'on croit. Voilà comment l'Express, une certaine ambiguïté d'ailleurs, rend compte de ce happening. L'article se termine sur une note qui se veut critique. Pourquoi en faire un spectacle, conclut Otto Hahn. Je dirais sans doute pour les mêmes raisons qui font que l'Express lui consacre un long article avec 3 photos plutôt croustilleuses. Venons-en maintenant à la pièce essentielle, à notre pièce de résistance, si j'ose dire, le Marassade. Ce spectacle, effectivement, occupe le centre de l'activité sadienne de 66 en France. La pièce de Peter Weiss a été écrite en 1963. Le titre complet, je vous le donne en français, « La persécution et l'assassinat de Jean-Paul Marat » représenté par le groupe théâtral de l'Hospice de Charenton sous la direction de M. de Sade. L'idée, la donnée de départ est une trouvaille très forte, hein, puisque, comme on le sait, mais on ne le savait pas tant que ça à l'époque, le marquis de Sade, au cours de sa deuxième grande phase d'internement, si j'ose dire, sous le consulat et l'Empire, a été enfermé à l'hospice de Charenton, qu'il avait d'ailleurs un peu fréquenté à l'époque où c'était un couvent, enfin, fréquenté comme prisonnier, s'entend, et qui est devenu un asile, et même une sorte d'asile modèle, dont le directeur, M. de Coulmiers, s'inspire des nouvelles théories de Pinel, en particulier. Dans cette prison-asile, où Sade est à la fois très surveillé par le ministère, par la police, mais où en même temps M. de Coulmiers sympathise avec lui, ils ont une relation assez étrange, mais Sade va être autorisé à monter des spectacles de théâtre. Donc la donnée de départ est historique, mais évidemment, jamais ces spectacles n'ont pris l'aspect d'une vie de Marat ou d'un assassinat de Marat, ni de spectacles, bien sûr, sur la Révolution française. Les spectacles que monte Sade avec les pensionnaires, les internés de Charenton, sont des pièces à la mode, en général des bluettes, des comédies, ou des pièces écrites très sagement par M. de Sade lui-même. Cette pièce de Peter Weiss est jouée en allemand à Berlin-Ouest, en 1964, et la même année à Londres, mise en scène par Peter Brook, dont le film sortira plus tard, en 1967. Elle est jouée aussi à New York, où elle triomphe, à l'Aldwych Theatre, pendant une saison qui court sur 65 et 66. Elle est couverte de prix, prix de la meilleure œuvre dramatique du Cercle des critiques, trois Tony Awards, dont l'un pour Peter Brook lui-même, un autre pour cet extraordinaire acteur qui joue le Marquis de Sade et qui est Patrick McGee. Alors, mais qui attend-on au juste ? Il semble évident à lire la presse qu'on attendait Sade. Je crois qu'on attendait autant et plus Peter Weiss et Peter Brook. Un mot sur Peter Weiss, j'appellerai un Allemand au-dessus de tout soupçon. De Peter Weiss, on sait qu'il est marxiste en 66. On croit même souvent qu'il est allemand de l'Est, tout simplement parce qu'en 66, sa pièce « L'instruction » a été jouée en RDA en même temps qu'en RFA, et qu'il a reçu en RDA, honneur insigne, le prix Heinrich Mann, qui est la plus haute récompense, l'équivalent du prix Staline pour la RDA. Il l'a reçu évidemment pour l'instruction, et pas pour Marat Sade. La réalité, bien sûr, est tout autre. Il n'est pas un Allemand de l'Est. Il est né dans une famille à la fois juive et chrétienne qui a quitté l'Allemagne avant la guerre et qui, après des tribulations, s'est installé en Suède. Donc Peter Weiss est de nationalité suédoise et il est en même temps membre d'un parti communiste, mais c'est le délicieusement confidentiel Parti communiste suédois. En France, sa réputation est une réputation théâtrale et militante. Et elle vient d'être établie par cette pièce, L'Instruction, qui a reçu le prix Heinrich Mann. C'est un oratorio très original, audacieux, en 11 chants, qui est tiré du procès, de ce qu'on a appelé le procès d'Auschwitz, qui a eu lieu en 65 à Francfort. Et la pièce a été traduite en français par André Gieselbrecht, un intellectuel communiste en vue, un bon grand germaniste et brechtien. Le réseau est donc très cohérent et la pièce est jouée en avril 66, je veux dire l'instruction, au théâtre de la commune d'Aubervilliers, dans une mise en scène de Gabriel Garand. Tout ça aura une grosse influence sur la réception de Marat Sade. Mais on attend, je crois, encore plus Peter Brook. Peter Brook, que j'appellerai volontiers l'ami britannique. Peter Brook est archi-anglais. Il vient du monde shakespearien. Il a co-dirigé la Royal Shakespeare Company. C'est l'occasion de rendre hommage à ce très, très grand homme de théâtre qui vient de prendre sa retraite des Bouffes du Nord cette année. Il a introduit dans ce monde anglais, et avec des acteurs absolument magnifiques dont vous ne verrez que quelques secondes, la théorie qui lui est chère de l'espace vide, qu'il a mise à l'œuvre dans la mise en scène de Marat Sade. Pour le grand public, Peter Brook est attendu aussi comme le réalisateur au cinéma de Lord of the Flies, le Seigneur des Mouches, 1963. Mais il faut ajouter qu'il est l'adaptateur au cinéma de Moderato Cantabile, avec Jeanne Moreau, 1960. Et que dès 1960, c'est déjà Peter Brook, et déjà à Paris, qu'on a pu voir un balcon de Jean Genet au théâtre du Gymnase. Il y a donc un fort tropisme français de ce très anglais Peter Brook, qui, comme metteur en scène, autre forme du tropisme français, se réclame d'Antonin Artaud. Pour mémoire, Antonin Artaud dans le rôle de Marat dans le film d'Abel Gance. En 1964, Brook a baptisé sa troupe Théâtre de la cruauté, Theatre of Cruelty. C'est avec cette troupe qu'il va donner quelle première pièce ? Une version des Paravents. Les Paravents dans une version dite expérimentale, réduite à 12 tableaux et en privé dans un club londonien. C'est la même troupe qui triomphera dans Marat Sade. Vous voyez comme tout ce monde se touche et nous sommes vraiment en pays de connaissance. On attend de surcroît le Peter Brook qui vient de prendre lui aussi une inflexion beaucoup plus politique en montant une pièce contre la guerre du Vietnam à Londres intitulée US ou Us, c'est-à-dire à la fois US pour United States et Us, c'est-à-dire nous, les Anglais, face à la guerre du Vietnam, qui est donnée par toute la presse française comme un modèle de ce qu'il faudrait faire. Je saute ici ce que je n'ai pas le temps de développer. Alors, le Nouvel Observateur, qui s'est un peu laissé distancer, me semble-t-il, dans l'affaire de la religieuse, va se rattraper avec Marat Sade. la publicité pour le Marasat commence bien avant que la pièce ne soit montée en France. Elle va être montée, et là je suis désolé de ne pas pouvoir vous montrer les images parce que je rends hommage à la ténacité de Mathieu Vernet ici présent, mais depuis une semaine, le site de l'INA refuse de nous donner ce pourquoi nous avons payé, c'est-à-dire les 1 minute 54 de la pièce française avec Michel Vitold dans le rôle de Marat et avec Jean Servais, terriblement en comédie française, dans le rôle de Sade. Je vous incite à aller sur le site de l'INA puisque vous pouvez la visionner, mais on ne peut pas, indisponibilité du site, on ne peut pas pour le moment la télécharger. Donc je ne pourrai pas vous le montrer. Donc scandale, scandale dans la presse, scandale Paris Presse. C'est une bombe, le Figaro littéraire. C'est la terreur à Sarah Bernard, au théâtre Sarah Bernard. Jean Tassot, le metteur en scène, va plus loin que Sade. Le Figaro accorde 4 articles à cette pièce, qui est d'attaque, bien sûr. Paris Jour rapproche du scandale des paravents. De manière assez intéressante, seule la presse dite d'extrême droite trouve la pièce assez bonne et intéressante et la lit, je pense ici à Rivarol et à Aspect de la France, et la lit comme une pièce anti-révolutionnaire. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous lire les citations. Mais c'est une lecture intéressante parce qu'elle met bien le doigt sur toute l'ambiguïté du texte de Peter Weiss au départ, c'est-à-dire un dialogue équilibré entre Marat et Sade, et sur les choix scénographiques de Peter Brook, qui sont extrêmement intéressants parce qu'il est inspiré par une tradition très anglaise, anti-jacobine, et que sa représentation des foules révolutionnaires françaises est effrayante non seulement parce qu'une partie des révolutionnaires sont joués par des fous, bien entendu, mais aussi par les choix des grimages et des costumes dans lesquels Peter Brook imite les gravures anti-jacobines, et ça, ça a échappé à beaucoup de spectateurs de l'époque, les gravures anti-jacobines anglaises de la période révolutionnaire. On a donc un spectacle beaucoup plus ambigu que ce qu'il va devenir dans la version française. Car il faut bien reconnaître que la version française est, du point de vue théâtral, extrêmement décevante. Et le Nouvel Observateur, après avoir longtemps rameuté le public vers la salle, réussit ce chef-d'œuvre de consacrer, dans le même numéro, 5 pages à la pièce. Voici la double page, le dossier d'un scandale. Mais suivi à la page suivante par un article, un long article, un compte-rendu de la représentation par Robert Abirached, l'un des très grands critiques de théâtre qui écrit souvent dans le Nouvel Observateur à l'époque, Robert Abirached, qui ne cache pas sa déception. Choix de mise en scène laborieux de Jean Tassot, incapacité complète des chœurs français à se faire comprendre faute de technique. C'est un leitmotiv dans la presse française à propos des acteurs français. Critique de tous les premiers rôles, et il vise surtout Jean Servais et même Michel Vitold, il sauve Françoise Brion, qui joue le rôle de Charlotte Corday. Il écrit « Jean Servais fait un Sade simpliste, et Michel Vitold bâtit le personnage de Marat autour d'un petit nombre de tics ». Vous voyez qu'après avoir énormément vanté à l'avance ce spectacle, le Nouvel Observateur lui-même, avec beaucoup d'honnêteté, en fait un compte-rendu fort peu alléchant. Il y aurait quelques sadismes à insister. Le scandale annoncé, et je dirais presque programmé, va donc se dégonfler, je ne dirais pas tellement faute de combattants, mais faute d'un véritable impact de la pièce. C'est une sorte de pétard mouillé dont les éléments de provocation tiennent surtout aux détails anticléricaux introduits par la mise en scène française, hein, qui d'ailleurs ne sont pas du tout présents dans la mise en scène de Peter Brook. On piétine des hosties, par exemple, et il faut le dire, le principal ennui que la pièce a failli avoir n'est pas avec les autorités, puisque le directeur du théâtre Sarah Bernard avait eu l'astuce de ne pas demander les crédits habituellement alloués par la ville de Paris. Il y avait renoncé pour ce spectacle et il avait fait appel à un producteur privé, Tony Hadzi, qui se trouvait être un Libanais très catholique. Et c'est ce producteur, Tony Hadzi, qui a essayé d'empêcher le piétinement des hosties. Il y a eu des scènes épiques entre Jean Tassot et Tony Hadzi. Tandis que les questions de Bertrand Flournoy, l'explorateur Briard, comme on l'appelle, ou l'explorateur de la salle Pleyel, comme l'appelle le Rivarol, Bertrand Flournoy, débuté UNR-UDT de Coulommiers, tombe finalement à l'eau, puisqu'il n'y a pas eu de fonds publics, contrairement à ce qui s'est passé pour les auparavant. Je terminerai donc, parce qu'il faut que je m'arrête, je terminerai très rapidement en guise de conclusion pour essayer de dresser une très rapide typologie des usages politiques que Sade a pu avoir au cours de l'année 66. Car j'ai été frappé par le fait que ce Sade, finalement, a des échos beaucoup plus politiques que sexuels. Bien entendu, les échos sexuels sont là. Ils sont dans une sorte de ressac des articles. Mais tant que le texte n'est pas lu, on assiste beaucoup plus à des usages politiques qu'à une présence sadienne, sauf quand Monique, 26 ans, évidemment, parle Sade, fait du Sade comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire sans le savoir. Ces usages politiques, j'en distingue trois. Le premier, c'est celui que je viens de vous dire, mais il est quand même intéressant. C'est un Sade qui sert de faire valoir à Marat. Je n'y insiste pas, mais le paradoxe du Marat-Sade version française va être de lancer un débat, non pas sur Sade, mais sur Marat. Ce débat est lancé dès le début dans le Nouvel Observateur, je vais quand même vous passer, si vous permettez, 2 minutes du film de Peter Brook, qui reste, à mon avis, une chose. Je l'ai revu d'ailleurs avec une admiration encore plus grande que quand je l'avais...
Long live the revolution!
Mother,
we've got to be clothed and fed!
Mother, they're sick of working night slaves!
Mother, we've got to have cheaper bread!
We crown you with these leaves, Mother, because of the laurel shortage. The laurels all went to decorate academics, generals and heads of state, and their heads are enormous!
You don't matter. By your side we stand a fool. You're the only one that we can ask at all.
Don't scratch your scabs, so they'll never get any better.
For years he fought, and he fought unafraid, sniffing down traitors by traitors betrayed. Mara in the courtroom, Mara underground. Sometimes the otter, and sometimes the hound, fighting all the gentry, and fighting every priest, businessman, the bourgeois, the military beast, Mara always ready to stifle every scheme of the sons of the arse-licking dying regime. We've got new generals, our leaders are new, they sit and they argue, and all that they do is sell their own colleagues to ride upon their backs. Or jail them, or break them, or give them all the axe. Screaming in language that no one understands of the rights that we've run with our own bleeding hands. When we wiped out the bosses and stole from the wall, and the prison they told us that our love.
La deuxième séquence, beaucoup plus brève, c'est une séquence qui montre l'acteur qui... C'est une séquence qui montre Sade, qui justement est le dernier à parler dans la pièce et la mise en scène de... Dans la pièce de Weiss.
Mara and I both advocated force, but in debate each took a different course. Both wanted changes, but his views and mine on using power never could combine. On the one side, he who thinks our lives can be improved by axes and knives, or he who'd submerge in the imagination, seeking a personal annihilation. So for me, the last word never can be spoken. I'm left with a question that is always open.
Voilà, magnifique acteur et magnifique scène finale qui laisse complètement ouverte la fin du film de Peter Brook qui ne sort qu'en 67 sur les écrans, je le rappelle. Entre-temps, la pièce de 66, la pièce française, présente au contraire une version où le personnage de Marat, joué de manière un peu ridicule, il faut le dire, par Jean Servais, ne fait pas le poids Sade ne fait pas le poids face au personnage de Marat. Il y a là un débat qui va être prolongé par Claude Roy, dans Le Nouvel Observateur avec un article que je n'ai pas le temps de commenter, Mara, intellectuel de gauche, présentant Mara comme un prophète, un homme du langage, quelqu'un qui dit la vérité et qui n'est pas entendu. Et ce débat va se prolonger toute l'année suivante avec une sorte de polémique à qui aimera le plus Mara, entre Claude Roy d'un côté, ancien stalinien, et d'autre part Jean Massin, qui vient plutôt du catholicisme et qui lui aime encore plus Mara et qui reproche à Claude Roy de ne pas savoir l'aimer assez. Donc voilà le premier usage un peu inattendu. Le deuxième, je ne fais que le mentionner parce que je crois qu'il en a été question sous d'autres formes, c'est évidemment la présence de la folie et de l'internement. C'est-à-dire qu'à cet égard, l'impact du Marasad de Peter Brook est à mettre en rapport avec le succès commenté par Antoine Compagnon du livre de Foucault, Les mots et les choses, où Foucault consacre des pages tout à fait passionnantes à Juliette de Sade, en lui attribuant une espèce de position charnière entre l'âge de la représentation et l'âge moderne, mais aussi avec les expériences d'antipsychiatrie de Franco Basaglia. Je n'ai pas le temps de développer parce que j'ai déjà abusé de mon temps de parole. Franco Basaglia, ce psychiatre italien qui a abandonné l'université pour s'installer près de Trieste, à Gorizia, et pour cette première expérience de ce qu'on a appelé asile ouvert, et finalement pour la fermeture même des asiles. Artaud, dont on a vu le souvenir passé et qui est très net dans la mise en scène de Brook, Basaglia et Foucault sont évidemment les trois figures qu'il faudrait mettre autour du Marasad. Le dernier usage politique de Sade, et je terminerai là-dessus, au cours de l'année 66, est un peu plus inattendu. Voici un reportage qui illustre un phénomène dont Antoine a parlé et dont peut-être il reparlera, c'est l'irruption des situationnistes sur la scène française. C'est la prise du pouvoir à Strasbourg, à l'Association des étudiants de Strasbourg, par ces situationnistes dont vous voyez le groupe dirigeant ici, avec celui que l'Express appelle Monsieur K. Monsieur K, avec ses lunettes noires, en qui on peut ou ne pas reconnaître Guy Debord, et qui est celui qui a été l'organisateur de cette géniale prise du pouvoir d'une association étudiante qui gère un budget considérable, j'avais le chiffre quelque part, et dont le budget va être entièrement utilisé, je ne dis pas dilapidé, mais entièrement dépensé en 2 mois par les nouveaux élus qui ont été élus totalement légalement, puisqu'il n'y avait pas de liste contre eux, et qui vont dépenser tout l'argent de l'Association des étudiants de Strasbourg pour diffuser à 10 000 exemplaires une brochure célèbre mentionnée par Antoine Compagnon déjà, c'est « De la misère en milieu étudiant ». Or, Sade va devenir, et déjà, mais va devenir, grâce aux situationnistes, un élément de ce qu'on pourrait appeler ce courant à la fois politique et, pour le coup, désirant. J'emploie désirant pour éviter le mot sexuel, parce que je crois qu'effectivement, c'est beaucoup plus une politique désirante qu'une revendication sexuelle, qui va se retrouver dans le mouvement de 68. C'est le Sade situ. Ce Sade situ, il a sa place dans les graffitis. Le premier détournement, vous savez que les situationnistes avaient pour spécialité le détournement de la publicité, entre autres, et puis des films à l'occasion. Le premier détournement opéré par les situationnistes, vous trouverez tous ces renseignements sur le site Debordiana, du nom de Debord, évidemment. Eh bien, c'était un détournement d'une affiche publicitaire à laquelle on faisait dire, je cite, « Les jouissances permises peuvent-elles se comparer aux jouissances qui réunissent à des attraits bien plus piquants ceux inappréciables de la rupture des freins sociaux et du renversement de toutes les lois ?» À cette magnifique prose française, vous aurez reconnu pour la première fois une citation de Sade. C'est donc à travers ces situationnistes que pour la première fois, on va entendre Sade, ou on va le lire sur les murs, car il faut le reconnaître, les situs, même sous la forme du graffiti, sont les premiers qui citent Sade. Sorbonne 68, grand amphithéâtre. Vigilance, les récupérateurs sont parmi vous. Ça, ce n'est pas du Sade. Mais ensuite, ouvrez les guillemets. Anéantissez donc à jamais ce qui peut détruire un jour votre ouvrage. Fermez les guillemets, Sade. Signature. Il y a donc là quelque chose qui est important, qui va porter Sade, si j'ose dire, sous une autre forme, très différente de la forme à contre-rôle qu'on lui faisait jouer comme faire valoir de Marat, et différente aussi, évidemment, du Sade des surréalistes, qui voyait en lui une sorte de libérateur un peu abstrait. Pour les situationnistes, Sade est devenu une sorte de compagnon de barricade et de guide, sinon pour l'action, du moins pour les jouissances.